Radio Kapi.
À la une, la rentrée parlementaire aujourd'hui 15 mars à Kinshasa. Plusieurs défis attendent l'Assemblée nationale et le Sénat. Et pour les députés interrogés, le contrôle parlementaire durant cette session doit aboutir aux sanctions des membres du gouvernement ainsi que ceux du bureau des deux chambres du Parlement mal évalués. Keba la caméra ou attention à la caméra, c'est l'opération que vient de lancer la police ville de Kinshasa. Il s'agit de filmer tout véhicule qui ne respecterait pas le code de la route et envoyer la vidéo dans le groupe WhatsApp nouvellement créé par la police. Objectif, décourager l'incivisme routier. Et puis, l'invité de ce matin, Fabien Moutombe, directeur général de la SNCC, après l'accident de train qui a coûté la vie à plus de 70 personnes le samedi à Louboudi dans le Lualaba, il donne ici le dernier bilan et annonce aussi l'ouverture des enquêtes pour établir les responsabilités. Madame, Messieurs, bonjour. Députés nationaux et sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple. Aujourd'hui, 15 mars, de nombreux défis attendent l'Assemblée nationale et le Sénat, tant sur le plan législatif, sécuritaire que du contrôle parlementaire. Plusieurs députés interrogés expriment leurs préoccupations quant à la précarité de vie de leurs électeurs rencontrés au cours des vacances parlementaires. Ils disent attendre beaucoup de cette session de mars pour faire avancer le pays sur le plan de sa pacification, de la consolidation de la démocratie, du développement, mais aussi de la bonne gouvernance. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Cette session de mars 2022 sera d'un enjeu majeur au regard notamment de la situation sécuritaire dans l'est du pays, affirme Crispin Bindoulé.
Nous devons évaluer la mutualisation des forces entre le FARDC et l'UPDF de l'Ouganda.
En ce qui concerne les questions législatives, cette session sera prioritairement consacrée à l'examen de la loi électorale, estiment Jacques Joly et Léon Mondolé.
Nous serons obligés, n'est-ce pas, d'aborder la loi électorale.
Le vote de la loi électorale, ainsi que tous les autres instruments juridiques indispensables pour l'organisation des élections constituent la principale attente pour cette session.
Quant à la question du contrôle, Christelle Vuanga veut des explications du gouvernement sur plusieurs aspects qui plongent la population dans la misère.
La question des routes où on avait promis un projet Kinshasa zéro trou qui n'a souffert que d'effets d'annonce. Il y a également la question du RAM. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout cet argent récolté?
Pour la majorité des députés interrogés, le contrôle parlementaire au cours de cette session devrait aboutir à des sanctions des membres du gouvernement ainsi que du bureau de la Chambre mal évaluées.
Par ailleurs, le ministre des Droits humains appelle l'Assemblée nationale à faire des réformes pour faire tomber la cuirasse des immunités, derrière laquelle se cachent, selon lui, plusieurs politiciens auteurs intellectuels des tueries en province. Fabrice Albert Puella l'a dit hier à Chicapa, à l'occasion du lancement des consultations populaires nationales sur la justice transitionnelle. Albert Fabrice Puella estime que les populations victimes des atrocités doivent se parler, connaître la vérité de ce qui s'est réellement passé et se pardonner. Dans le contexte de la province du Kasaï, il a fait allusion aux atrocités subies par les populations en 2017 dans le phénomène dit Kamuina-Sapu. Cependant, ce pardon ne viendra pas sans justice. On écoute le ministre Albert Fabrice Puella des droits humains dans cet extrait proposé par Alain Rongouchinge.
Si l'État était si pas commanditaire, alors complice des atrocités, des crimes crapuleux et odieux, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au sein de l'espace Kasaï et pire encore au sein du palais royal et sacré du chef Kamuina-Sapu, il est disposé, je parle de l'État, il est disposé non seulement à faire en sorte que la vérité soit connue, que les gens se parlent et se pardonne, mais aussi et surtout qu'il y ait des poursuites judiciaires. Et c'est là que nous saluons la présence des dignes représentants du peuple, pour que de vraies réformes aient lieu à l'Assemblée nationale, pour que cette cuirasse derrière laquelle nous nous cachons, nous les hommes politiques, nous les responsables politiques qui tirons les ficelles en envoyant nos populations à la boucherie, puissent tomber. Parce que lorsqu'il y a mort d'homme, nous savons que dans l'arsenal des droits humains, la valeur transcendantale, c'est le droit à la vie. Et lorsque quelqu'un, par un quelconque de ses actes, a causé la mort à des hommes, il ne peut pas se permettre de se cacher derrière des immunités.
Et le député national Guy Mafuta Kabongo salue le lancement des consultations nationales sur la justice transitionnelle hier dans la ville de Tshikapa par le ministre des Droits humains. L'élu de Tshikapa estime que cette action du gouvernement est vraiment opportune pour permettre, selon lui, la cohabitation pacifique des communautés. Il appelle les acteurs politiques à travailler pour la consolidation de la paix entre les communautés. Par ailleurs, il soutient dans le cadre des réparations dont ont bénéficié les victimes la mise en place des activités économiques pour réellement consolider la paix. On écoute le député national Guy Mafuta, joint par Alain Rung.
Nous pensons qu'il était temps de réfléchir sur une justice réparatrice, une justice qui aille dans le sens de consolider la paix, de faire en sorte que les communautés qui étaient jadis opposées à la suite de ces événements malheureux puissent ensemble vivre encore une fois dans l'harmonie. Et nous pensons qu'il est important qu'il y ait une justice réparatrice, une justice qui n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie, mais qui puisse consolider le vouloir vivre ensemble. Et nous, au Kassai, nous attendons beaucoup. Et à côté de cette justice, il faut aussi voir comment consolider la paix avec des activités économiques. Parce qu'au-delà de tout, c'est la pauvreté qui est au cœur de ces violences-là. Et je crois que c'est une bonne idée. L'initiative du gouvernement est la bienvenue. Et nous, en tant que responsables politiques, en tant que leaders d'opinion, nous allons aussi jouer notre part à notre niveau pour sensibiliser davantage les communautés locales, nos communautés respectives à la paix.
Violence, démocratie et émergence des élites politiques en République démocratique du Congo, de Laurent Désiré Kabila à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le titre d'une nouvelle publication de 411 pages parue aux éditions L'Harmattan sous la plume du professeur Casimir Ngoumbi Kitete Wayuma, docteur en sciences politiques et administratives de l'Université de Kisangani dans la province de la Tshopo. Préfacé par le professeur Émile Bongeli, ce livre a été porté sur fonds baptismaux hier par le ministre de l'Enseignement supérieur, Muindo Nzangi. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. L'auteur, Casimir Ngoumbi, explique sa démarche au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous avons montré comment l'émergence des élites politiques dans notre pays se situe sur deux béquilles. Il y a d'un côté la béquille politique, la béquille de violence, et de l'autre côté la béquille de démocratie. Et donc j'ai montré ici comment l'émergence des élites politiques en RDC s'intercale entre la violence et la démocratie. Lorsque l'État est plus fort que les groupes qui pratiquement mobilisent cette violence, l'État est à même de restaurer la paix et de gérer l'État, de gérer cet espace dans les conditions les meilleures. Et donc, en utilisant bien sûr les instruments de violence légitimes qui sont notamment la police, sont notamment l'armée, les services de sécurité, la Direction générale des migrations, tous ces services-là qui sont mis à la portée de l'État, lui permettent de bien gérer l'État dans son ensemble.
Je vous le disais en titre, la police ville de Kinshasa vient de lancer une opération autorisant la population à filmer tout véhicule qui ne respecterait pas le code de la route. Ensuite, envoyer cette vidéo dans le groupe WhatsApp que la police a créé pour qu'elle soit diffusée à la télévision. Cette opération est appelée opération Kebana Camera, traduisée attention à la caméra. Selon la police de Kinshasa, l'objectif est de décourager l'incivisme routier. Mais comment réagissent les Kinois? Suivez ce reportage de Jean-Francis Mouya.
Suite à l'annonce de la création du dit programme, les avis sont partagés du côté de la population. Les uns le jugeant de salutaire car la population aura la possibilité de dénoncer. D'autres par contre pensent que cela mettrait la population en danger.
Moi je pense que c'est vraiment une bonne décision de donner l'opportunité à la population de parler. Parce qu'on n'a pas toujours la facilité de dénoncer ce qui se passe.
Imaginez un individu que je suis, qu'on m'appréhende en train de filmer une Jeep de la police qui est en train de passer ou je ne sais quoi. Ça sera quoi mon sort? Moi qui étais en train de filmer, sans carte de presse, sans quoi que ce soit, est-ce que la police peut encourager les désordres?
Du point de vue juridique, Maître Grace Binet, né avocat au barreau de Kinshasa Matete, donne des éclaircissements.
Le droit à l'image aussi joue parce que si vous devrez filmer quelqu'un qui ne vous a pas donné l'autorisation de le filmer, vous voyez que vous faites quelque chose d'illégal carrément. La police doit être équipée avec des caméras qui permettra par exemple pour des véhicules qui prennent des sens uniques au moins d'avoir la plaque du véhicule pour qu'après que les enquêtes soient ouvertes contre ces personnes. personnes-là.
Notez que les images prises seront communiquées à la police à travers un forum WhatsApp pour traitement avant d'être diffusées.
La guerre en Ukraine aurait-elle un impact notamment sur la fabrication du pain vendu à Kinshasa? En tout cas, c'est ce que laissent entendre certains responsables des boulangeries et autres producteurs de farine interrogés par notre équipe de reportage. Non seulement ils parlent de la hausse du prix de la farine panifiable, mais ils expliquent aussi que cela a entraîné la réduction du grammage ou de l'épaisseur du pain. Toutefois, le prix est resté le même. Des sources du ministère de l'économie n'admettent pas que le conflit ukrainien ait une incidence sur le prix de la farine actuellement en RDC. Des détails dans ce reportage de Priscille Yabadjoko.
Le constat est le même dans plusieurs coins de la ville. Plusieurs boulangeries ont réduit le grammage de leur pain. Leur confirmation émane aussi bien des acheteurs que de vendeuses. Les boulangers justifient cette situation par la hausse de prix de la farine. Beaucoup disent tenir difficilement le coup. Blanchard Maemba, propriétaire d'une boulangerie artisanale. Nous avons du mal à travailler, difficile de changer le coût du pain. Les mamans veulent avoir le même grammage de pain alors que les prix de la farine a haussé. Le producteur de cette farine lie cette hausse à la guerre en Ukraine. Jean-René Kakumba, chef du service commercial et marketing de Mino Congo. La matière première qui entre dans la production de la farine, notamment le blé, nous vient de l'Ukraine et de la Russie. Ces deux pays font l'exportation de 30% du blé mondial. Donc, cette situation de guerre entre ces deux pays nous rend la vie difficile. Pour des sources du ministère de l'économie, le commerçant a anticipé la hausse de prix de la farine. La guerre en Ukraine pourrait avoir un impact sur l'importation du blé, mais pas tout de suite. Les commerçants disposant encore de stock.
Après la cartographie des volcans au Nord Kivu, nous parlons aujourd'hui dans cette série de reportages entamée hier des dispositifs mis en place par le gouvernement et ses partenaires pour la surveillance de ces volcans. Denise Lukeso intervient dans ce journal depuis Goma.
Je pense que nous sommes mieux qu'avant. Aujourd'hui, nous avons du matériel acheté par le gouvernement central, aussi par les partenaires.
L'OVG rassure. Cette institution affirme être à mesure de surveiller jusqu'à 60% les volcans. Son directeur scientifique parle des innovations sans précédent dans ses travaux de surveillance. 15 stations sismographiques sont fonctionnelles autour des volcans les plus dangereux. Des GPS, des capteurs thermiques, des caméras installées au sommet du volcan. Tout mouvement du volcan, les tremblements des terres sont désormais enregistrés et suivis toutes les 4 minutes grâce à ces matériels, dit Kasereka Mainda. D'autres besoins sont non couverts. L'OVG dispose également d'un grand laboratoire construit par le gouvernement congolais. Il salue l'octroi par le gouvernement d'une prime au personnel et les frais de fonctionnement de ses services. Les Luxembourg, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Italie, partenaires de l'OVG, apportent aussi leurs appuis louables dans ces travaux de surveillance. De son côté, la MONUSCO a doté cette institution d'une sirène, d'un équipement solaire et d'autres équipements de surveillance, affirme M. Kasereka. En plus de la logistique pour survoler ces volcans. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Et puis, cette autre série de reportages nous fait découvrir aujourd'hui les produits de l'élevage avec un accent sur la fabrication du fromage qui constitue une grande activité des produits d'élevage au Nord Kivu. Comment et où est-il fabriqué? Quelle est la composition de la matière première? Retrouvons une fois de plus Denise Lukeso pour plus de détails.
Les laits crus, les fromages, la saucisse, la viande fraîche, les laits caillés, le beurre, la crème fraîche, les yaourts et autres sont les divers produits de l'élevage. Les fromages et les produits laitiers phares de cet élevage. Avec sa renommée, le fromage du Kivu est beaucoup apprécié par plus d'une personne. Plusieurs produits et ingrédients entrent en compte dans sa fabrication. Il faut au moins 21 jours pour avoir un fromage approprié. Les laits crus tirés de la vache constituent la matière première pour la fabrication du fromage. Sa commercialisation en détail, tout comme en gros, c'est fait en ambulatoire et fixe par des supermarchés et d'autres maisons implantées dans la ville. Le fromage du Kivu est jusqu'ici produit pour la consommation locale. Quelques contraintes ne facilitent pas encore son exportation, dit M. Alphonse Mouiré, directeur de la Cogenoki, qui parle aussi de la concurrence déloyale. La Cogenoki compte améliorer l'élevage pour une meilleure production de ses produits et sollicite l'appui du gouvernement congolais. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Direction Congo Central. La nouvelle équipe dirigeante de l'organisation pour l'équipement de bananes à Kinshasa, OEBK, a pris ses fonctions hier à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise qui a connu la participation des agents et cadres de cette entreprise et des différentes personnalités, dont le directeur de cabinet du gouverneur intérimaire du Congo Central. L'arrêté nommant le nouveau comité dirigé par Madame Gloria Tuluka a été signé le mardi 8 mars dernier par le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Chérubin Okende. La nouvelle directrice générale de cette entreprise qui gère le pont Maréchal a plusieurs défis à relever, notamment la paye des arriérés de salaire du personnel, l'apurement des créances héritées de ses prédécesseurs et la résolution du conflit foncier qui oppose l'OEBK aux ayants droit foncier de Matadi, signalant que Madame Gloria Tuluka est la première femme à diriger l'OEBK sur les 6 directeurs qui se sont succédés depuis la création de l'entreprise.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Soudan. Les forces de sécurité ont tiré des balles et des grenades lacrymogènes hier pour tenter de disperser des milliers de manifestants soudanais contre le régime militaire et l'inflation qui s'aggrave depuis le coup d'État d'octobre. Depuis ce coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre dernier, le pays a perdu son aide internationale et désormais pris à la gorge par la hausse des prix des céréales et du pétrole due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
L'invité.
Plus de 70 personnes ont perdu la vie dans un accident de train qui a déraillé le samedi à Louboudi, dans la province du Lualaba. Le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, donne ici le dernier bilan et parle notamment des circonstances de ce drame. Fabien Moutombe annonce aussi l'ouverture des enquêtes en vue d'établir les responsabilités et promet des sanctions à l'endroit de toute personne impliquée dans cet accident. Fabien Moutombe s'entretient à ce sujet avec Guy Matetsongo.
Bonjour Monsieur Fabien Moutombe.
Bonjour Monsieur Guy Maté.
Le bilan du déraillement de Louboudi a-t-il évolué ou il est resté le même?
D'abord, comme il y a eu mort d'homme, j'aimerais transmettre les condoléances les plus attristées puisque la République a perdu, le Congo a perdu ses fils et filles. J'aimerais transmettre mes sincères condoléances. Du point de vue bilan que nous avons avancé, nous retenons, il y a eu 73 morts, 125 blessés, dont 28 avec traumatisme. Ça, c'est le bilan officiel jusque-là.
Qu'est-ce qui est à la base de cet accident, monsieur le DG?
Il y a eu coupure brusque de la traction suite à l'échauffement de l'huile transformateur. Ça a causé un arrêt brusque et la loco s'est emballée. Au-delà de ça, il faut se dire que lorsque vous alignez une locomotive, la locomotive, une rame, elle a le barème de charge. Et lorsque les gens prennent d'assaut les personnes et leurs colis, ils augmentent le tonnage, ils augmentent le poids. Et en ce moment-là, il est très difficile que la loco qu'on a prévue pour tracter autant de tonnes puisse tracter une charge qui n'est pas prévue. Et cette question, elle est transversale, puisque l'accident que nous avons connu, ce n'est pas sur un train voyageur, c'est sur un train marchandise. Retenez un peu. Sur cette relation-là, c'est-à-dire l'espace Kasaï et le Katanga, nous avons 4 trains par semaine. Donc, il n'y a aucune raison que les gens puissent prendre d'un train marchandise.
Où se situe la responsabilité de la population? Parce que, comme vous l'avez relevé tantôt, les passagers sont montés dans un train marchandise. Ils auraient même embarqué de manière clandestine. Où se situe donc la responsabilité des passagers et où se situe celle de la SNCC?
Il y a un problème de toutes parts. Il y a un problème de civisme national qui se pose. Où les gens, en lieu et place des trains voyageurs, préfèrent prendre les trains marchandises.
Monsieur le DG, là c'est la responsabilité des passagers. C'est quoi la part de la SNCC? Est-ce que la SNCC fait le contrôle comme il se doit? Est-ce que la SNCC procède régulièrement à l'entretien des réseaux ferroviaires?
La SNCC, à son niveau, prend toutes les responsabilités. À quel niveau? Premier niveau, en organisant les trains voyageurs. S'il n'y avait pas de trains voyageurs, on pouvait dire que c'est la responsabilité de la SNCC. Deuxième point, il y a la sécurité ferroviaire qui est là, qui essaye de contrôler. Mais les gens contournent. Et vous savez, comme ce sont des clandestins, ils déjouent et la police de la SNCC et la police en tant que service de l'État.
Après cet accident, quelles sont les dispositions qui sont prises par la SNCC pour prévenir ce type de drame, monsieur le DG?
D'abord, tous les gens qui sont impliqués dans cette affaire, de loin ou de près, nous allons les sanctionner. Premier point. Deuxième point, à notre niveau de responsabilité, nous allons, en conjuguant avec le pouvoir public, nous allons éduquer les usagers du chemin de fer, éduquer la population congolaise, les risques que nous sommes en train de prendre en empruntant les trains marchandises. Et au-delà de ça, c'est un problème de l'exode urbano-rural. C'est pourquoi nous, à la SNCC, nous appuyons formellement le programme du président de la République sur le développement de 145 territoires. Si nous arrivons à cela, je crois qu'il n'y aura pas de mouvement incontrôlé. Et dans cette administration, nous mettons l'accent sur les ressources humaines, nous mettons l'accent sur la voie, les locomotives et les wagons. Je le dis que cette question, c'est une question transversale. Il touche la SNCC, il touche le pouvoir public, il touche la population congolaise. Il faut la conjugaison de tous ces éléments pour que nous puissions trouver de solutions idoines. Et nous les trouverons.
Fabien Mutombo, merci.
C'est plutôt la SNCC qui vous remercie.
Notre invité, le directeur général de la SNCC, était avec Guy Matetsongo. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de l'avoir suivi.